et merci d'avoir choisi Europe 1 du midi.
Le 17e cas confirmé est un homme de 60 ans français qui a été testé en urgence hier et qui est malheureusement décédé dans la nuit.
Un premier mort français du coronavirus et deux autres nouveaux cas dans le pays, annonce Pierre du directeur général de la santé qu'on vient d'entendre.
Et pendant ce temps, le match Lyon-Turin est maintenu sans aucune restriction. On attend des milliers de supporters italiens.
Non, on n'a pas été contrôlé depuis notre arrivée en France. On n'est pas inquiet.
Et puis nous entendrons l'infectiologue Didier Raoult. Il préconise la chloroquine pour contrer le coronavirus.
Dans ce journal également, la campagne pour les municipales à Paris ce matin. Sur Europe 1, Rachida Dati accuse Anne Hidalgo d'avoir mis en place un passe-passe budgétaire sur le logement social.
Qu'a fait Madame Hidalgo avec Monsieur Bargeton? Ils ont demandé aux bailleurs sociaux de leur faire une avance sur les loyers sur des dizaines d'années. Depuis 2016, 1,15 milliard.
Yann Brossa, maire adjoint auprès d'Anne Hidalgo, chargée du logement, lui répondra en direct dans ce studio.
20 morts, 200 blessés dans des violences communautaires à New Delhi en Inde. Décryptage à suivre.
Et puis, c'est mercredi, nous parlerons cinéma avec, bien sûr, le biopic sur Judy Garland. La météo, Céline Dacosta, temps agité aujourd'hui.
Oui, comme prévu, des giboulées, du vent, de la neige sur les reliefs et en plaine aussi, en Haute-Normandie, en Bourgogne, en Lorraine en ce moment. C'est plus calme près de l'Atlantique et de la Méditerranée.
Merci Céline, on vous retrouve pour une météo complète à 12h30 sur Europe 1.
Europe 1, écoutez le monde changer.
La France, Pierre, compte donc 3 nouveaux cas de coronavirus, ce qui met le total à 17 cas. L'un des patients est décédé.
Peu après 10h, le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, a en effet pris la parole pour annoncer ce nouveau bilan. Victor Delande, c'est donc le premier mort français depuis le début de l'épidémie.
Oui, il s'agit d'un homme français de 60 ans. Il a été testé en urgence hier à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, dans un état gravissime, et il est décédé dans la nuit. Pour le moment, nous n'avons pas d'autres précisions. Une enquête a été lancée en urgence pour rechercher notamment les personnes avec lesquelles il est entré en contact et qui pourraient donc être contaminées. Selon nos informations, ce cas est pris très au sérieux. On cherche également le patient zéro pour savoir comment cet homme a été lui-même infecté. En dehors de ce sexagénaire décédé, 2 nouveaux cas de coronavirus ont été confirmés ce matin. Le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, donne des précisions sur l'un de ces 2 cas.
Il y a un homme français de 55 ans qui est actuellement hospitalisé à Amiens et qui est dans une situation clinique grave. Il est actuellement en réanimation. L'enquête autour du cas est en cours.
Enfin, l'autre cas dévoilé ce matin est un homme français de 36 ans hospitalisé à Strasbourg. Il revient du nord de l'Italie, de Lombardie très exactement, mais il ne présente pas de signes de gravité.
Merci de ces précisions, Victor Delande.
Alors avec vous, Jean-Jacques Héry, on va faire une sorte de cartographie de la France. Où se situent les cas déjà confirmés?
Les cas de confinement se situent un peu partout en fait. Il suffit de parcourir la PQR, la presse quotidienne régionale, pour s'en rendre compte. Le dernier exemple en date concerne un hôtel à Beaune en Côte d'Or. 30 personnes y sont placées en confinement depuis ce matin. Et cela parce que la nuit dernière, un Hongkongais est décédé dans l'établissement. Alors il y a actuellement des analyses pour essayer d'éclaircir les causes de ce décès. Mais en attendant, tout le groupe qui a accompagné ce touriste doit rester dans l'hôtel. Le cas le plus fréquent en matière de confinement, cela concerne évidemment les personnes revenant de zones à risque, l'Asie ou l'Italie. Hier, il y avait ainsi une grosse inquiétude à Courbevoie. 5 lycéens de retour de Lombardie avaient été pris en charge à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Et on l'a appris ce matin, tous les tests se sont révélés négatifs. Dans les établissements scolaires, on commence à réagir. C'est une consigne de l'éducation nationale. Un message est envoyé aux parents via les carnets de liaison. On demande à ceux dont les enfants reviennent des régions touchées de les laisser chez eux 14 jours au moins sans sortir. On limite les activités et les contacts avec les personnes fragiles. Et si vraiment on doit sortir, obligation de mettre un masque. Tout l'enjeu maintenant, ce sera la responsabilisation des potentiels malades. Et on s'aperçoit que ça commence peu à peu à être quelque chose qui émerge. D'abord parce que de plus en plus de personnes viennent elles-mêmes se faire tester à l'hôpital. Et puis il y a aussi des gens qui décident eux-mêmes de se mettre en confinement. La Dépêche du Midi cite ainsi le cas d'une mère de famille du Tarn, de retour de croisière en Italie avec ses enfants. Elle a été très étonnée à son retour de ne pas être placée en quarantaine. Alors elle s'est elle-même placée en confinement avec son fils et sa fille, le tout en se mettant d'accord avec son employeur pour télétravailler.
Ça s'appelle du bon sens. Merci Jean-Jacques Héry. Notez que tous les chefs de parti et les présidents de groupes parlementaires sont conviés demain à Matignon pour une réunion sur le coronavirus.
Mais pendant ce temps, aucune annonce de restriction quelconque concernant le match opposant Lyon à la Juventus Turin ce soir en 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Environ 3000 spectateurs italiens sont attendus, Pierre, dans les gradins.
Ouais, 3000. Cyril de la Morinerie, vous êtes sur place hein, au Parc Hoël et vous nous le confirmez, pour l'instant, aucun huis clos n'a été prononcé.
Oui, et depuis ce matin, on voit Place Bellecour de plus en plus d'écharpes noires et blanches malgré l'épidémie de coronavirus. Et bien Vincent Vincenzo, fan de la Juve, n'a senti aucune défiance depuis son arrivée dans la capitale des Gaules.
Non, on n'a pas été contrôlé depuis notre arrivée en France.
Tout est stato normal.
Mais c'est un virus normal, tout est normal. On n'est pas inquiet.
Et si le Torino est le club de la ville de Turin, la Juve attire des tifosi de toute la péninsule. Fanny vit en Sardaigne, même si elle croisera ce soir dans les gradins des fans venus du nord de l'Italie. Cette supportrice n'a pas hésité à prendre l'avion pour encourager son équipe de cœur.
La Juve a communiqué qu'il n'y avait pas de danger. Je pense que les contrôles au stade seront suffisants. La situation est sous contrôle.
Et dans le Vieux-Lyon, les cafés se préparent à recevoir les supporters italiens. Et il y a un peu d'inquiétude, je m'en suis rendu compte ce matin en rencontrant notamment Yacine, serveur au pub Heads, Place Bellecour.
Ça nous stresse quoi. Il y a énormément de supporters et puis c'est ingérable. C'est ingérable, dans des cas pareils, il fallait faire quelque chose. Moi personnellement, j'ai failli ne pas venir.
Alors sur le terrain sportif, les fans de Lyon, eux, sont fébriles à l'idée d'affronter l'équipe du légendaire Cristiano Ronaldo, meilleur buteur de la Ligue des Champions.
Merci Cyril de la Morinerie au Parc Hoël pour Europe 1. Et donc, sauf annulation de dernière minute, ce qui est peu probable, vous commenterez Cyril ce match ce soir en direct avec Christophe Lama. Rendez-vous dès 20h ce soir sur Europe 1.
Alors, qu'en pense Gérard Collomb, le maire de Lyon? Est-ce qu'il comprend que ce match se joue ce soir? Écoutez sa réponse plutôt sibylline, c'était il y a une heure maintenant sur BFM TV.
On ne peut pas en avoir un avis personnel, évidemment, on s'entoure de conseils. Ensuite, c'est le ministère qui doit trancher, le Premier ministre lui-même. Je sais que, par exemple, en Conseil des ministres, le match de ce soir sera évoqué et des décisions peuvent être annoncées en fonction de l'évolution, effectivement, du virus en Italie. On n'est pas exactement sur la région de Milan, on est évidemment avec la Juventus de Turin, et donc ce n'est pas exactement la même région. Aujourd'hui, la région de Turin n'est pas concernée par le coronavirus.
Voilà ce que dit donc Gérard Collomb, qui, vous l'aurez bien entendu, eh bien, ne répond pas directement à la question. En tout cas, en Italie, le bilan lié au coronavirus s'alourdit. 10 personnes sont mortes à cause de cette maladie, et la région de Milan est en état d'alerte.
10 villes sont toujours en quarantaine, verrouillées par des barrages routiers, en dehors de la zone de confinement. Et tout près de Codogno, en Lombardie, il y a l'hôpital de Lodi, un établissement pris d'assaut. Reportage signé Romano Key.
Les sirènes des ambulances résonnent en permanence sur le parking de l'hôpital. À l'intérieur, des médecins en combinaison et des patients aux symptômes inquiétants, accueillis dans un sas hermétique. Davide accompagne sa mère âgée.
Elle a un peu de fièvre. Là, elle est sous surveillance, elle passe des examens. Si elle a vraiment attrapé le virus, je sais qu'à partir de ce moment-là, ça peut très mal finir.
Aux urgences, Davide tourne en rond. Le personnel débordé s'occupe des patients installés derrière des bâches posées à la hâte. Fabio lui vient livrer de nouveaux respirateurs. L'hôpital nous a demandé plus de matériel. Ils veulent être prêts, explique le technicien. Dans la salle d'attente, il y a aussi Michelangelo qui habite l'une des villes en quarantaine. Il a pu franchir les barrages routiers pour amener son ami blessé.
Je sais que cela peut être dangereux. Peut-être que je suis contagieux, mais nous n'avions pas d'autre alternative. Dans la zone confinée, il n'y a pas d'hôpital, pas de service d'urgence. Nous devions venir ici.
Un risque de contamination annoncé dès l'entrée de l'hôpital. Une affiche, n'entrée qu'en cas d'extrême nécessité. Lodi, Romano Key, Europe 1.
Et puis alors que les laboratoires continuent à chercher un vaccin contre le coronavirus, qu'ils ont parlé d'un délai de 20 mois pour le trouver, voilà qu'un ponte de l'infectiologie en France propose d'administrer de la chloroquine.
Il s'agit de Didier Raoult, infectiologue au pôle des maladies infectieuses au CHU de la Timone à Marseille. Alors, qu'est-ce que la chloroquine ?
La chloroquine, c'est un médicament qui a de multiples actions, mais une de ses actions très importantes, c'est qu'elle change l'acidité d'une poche qui se trouve dans les cellules qui détruit les bactéries et les virus. Et ce faisant, il y a des enzymes qui permettent de sortir de cette poche pour envahir les cellules qui ne sont plus actives.
D'accord.
C'est un peu comme ça qu'elle travaille dans le paludisme. Elle l'empêche de manger, en pratique. C'est comme ça, nous, on l'utilise depuis très très longtemps dans des infections avec des bactéries qui vivent comme les virus à l'intérieur des cellules. Et ça marche très bien. J'utilise ça depuis 30 ans. Et donc, on avait publié déjà depuis 10 ans que c'était un des médicaments d'avenir dans le traitement des infections virales.
L'infectiologue au pôle de maladies infectieuses au CHU de la Timone à Marseille, Didier Raoult, interrogé sur Europe 1 ce matin par Mathieu Béliard. En Iran, 4 nouveaux morts du coronavirus, ce qui porte le bilan à 19. Et puis en Chine, c'est une bonne nouvelle, le Covid-19 tue moins qu'au départ. 406 nouveaux cas tout de même annoncés aujourd'hui contre 508 hier. D'autre part, les usines reprennent, ce qui devrait réduire l'impact sur l'économie.
Il est midi 10.
Europe 1.
Restez avec nous dans un instant. Rachida Dati accuse Anne Hidalgo d'avoir fait un passe-passe budgétaire auprès des bailleurs sociaux à Paris. A tout de suite.
Il est midi 12, la suite de votre journal, c'est avec Pierre de Villeneuve et Raphaël Duchemin.
Et c'était ce matin, Pierre, sur Europe 1, Rachida Dati, à son tour, présentait ses arguments de candidate à la mairie de Paris.
Et notamment un gros volet sur la sécurité, la maire du 7e le précise. Elle ne critique pas Anne Hidalgo personnellement, mais fustige son bilan. C'est le cas notamment en matière de logement social. Écoutez plutôt.
Moi, je voudrais parler de l'opération de Calavalerie que j'ai dénoncée dès dimanche dernier, qu'on pourrait qualifier de filouterie. Qu'a fait Madame Hidalgo avec M. Bargeton, qui était son adjoint aux finances à l'époque, qui est aujourd'hui colistier de Madame Buzyn, qu'ont-ils fait? Ils ont demandé aux bailleurs sociaux de leur faire une avance sur les loyers sur des dizaines d'années. Depuis 2016, vous savez à combien s'élève cette avance sur loyer? 1,15 milliard. Pour pouvoir faire quoi? Combler une partie du déficit. C'est tellement mal géré qu'on demande aux bailleurs sociaux de faire des avances de dizaines d'années de loyer. Et moi, je comprends mieux pourquoi tous les logements sociaux de l'Est, du Nord parisien sont totalement dégradés. Parce que c'est un manque à gagner, soit pour construire des logements sociaux, soit pour rénover et réhabiliter. Et donc, moi, je souhaite, si je suis maire de Paris, avoir un audit pour avoir de la transparence.
Rachida Dati ce matin au micro Europe 1 de Sonia Mabrouk. Olivier Samin, vous avez enquêté, qu'en est-il exactement?
Alors le procédé, nous a-t-on confirmé, est légal. Il consiste pour la ville de Paris à vendre une partie de son patrimoine de logement à des bailleurs sociaux, mais attention, pour une durée limitée, 50 à 70 ans. Par cette opération, les logements en question deviennent des logements HLM, très bien, mais la particularité, c'est la forme que prend le prix d'achat. Les bailleurs ne payent pas un capital à la manière de ce que vous faites vous quand vous achetez un appartement, non. Ils versent à la ville de Paris en une seule fois et au départ l'équivalent de la totalité des loyers qu'ils toucheront pour ces logements pendant toute la durée où ils les exploiteront, autrement dit pendant 50 à 70 ans.
Olivier, ça fait une grosse rentrée d'argent pour la ville de Paris.
Ben oui, les fameux 1,15 milliard dont parle Rachida Dati, plus précisément 1,150 milliards si l'on en croit le canard enchaîné, versé au cours du mandat qui s'achève, alors que sans cette opération, la ville aurait bien encaissé cette somme, mais étalée sur 50 voire 70 ans. Et ce que dit Rachida Dati, c'est que cette rentrée d'argent ne sert pas à financer la politique du logement social à Paris, elle sert à combler le déficit général de la ville et à réduire son endettement.
Merci Olivier Samin. Bonjour Yann Brossard.
Bonjour.
Merci d'être avec nous dans ce studio. Vous êtes maire adjoint auprès d'Anne Hidalgo, chargé du logement. Si on en croit Rachida Dati, vous avez mis de côté une avance d'1,150 milliard d'euros. Où est cet argent?
Cet argent, il permet de financer la politique du logement social de la mairie de Paris. Mais vous savez, tout cela est absolument transparent, absolument légal, donne lieu à des votes au Conseil de Paris, des délibérations qui sont discutées de manière démocratique. Alors c'est vrai que Madame Dati n'est pas très assidue au Conseil de Paris et qu'il est possible que ces délibérations lui aient échappé. Mais enfin, tout cela est parfaitement transparent. Et puis, je vais vous dire, quelle est la réalité? La réalité, c'est que Madame Dati, elle ne veut pas de logement social. Elle a d'ailleurs, y compris, déposé des vœux au Conseil de Paris pour demander qu'on arrête de faire du logement social dans le 7e. C'est le 7e, son arrondissement, c'est 2% de logements sociaux. Eh bien, pour Madame Dati, c'est trop. Et donc, elle s'y oppose de manière systématique. Nous avons, par exemple, obtenu de transformer l'actuel ministère de la Défense en 251 logements sociaux. Madame Dati a voté contre et elle a d'ailleurs, y compris, tenté de bloquer cette opération. Donc moi, j'assume parfaitement.
C'est le ministère de la Défense. Vous le mettriez où?
Mais parce que vous savez que le ministère de la Défense déménage à Ballard. Par conséquent, les locaux actuels qui sont situés rue Saint-Dominique ne sont plus utilisés. Moi, j'assume parfaitement la politique de la ville de Paris, qui est une politique de développement du logement social, prioritairement dans les quartiers qui comptent peu de logements sociaux. C'est ça que ne veut pas Madame Dati. Et moi, j'assume cette politique de rééquilibrage.
Cet argent, justement, Yann Brossat, il sert aussi à moderniser le parc de logements sociaux?
Bien entendu. Vous savez, chaque année, nous rénovons entre 4 et 5 000 logements sociaux, prioritairement dans les quartiers populaires du nord-est parisien. Je suis élu du 18e arrondissement et nous avons précisément cherché à mettre le paquet sur la réhabilitation et notamment la réhabilitation thermique de ces logements, parce que quand on les rénove et qu'on fait une rénovation thermique, on baisse les charges et on permet aux locataires de gagner du pouvoir d'achat. Donc on peut vraiment nous faire tous les reproches du monde, mais celui-là, il n'est vraiment pas justifié.
Est-ce que la somme de 1,150 milliard d'euros est exacte?
Oui, bien sûr, c'est une somme qui est exacte.
Et l'intégralité, les 100%, vous nous dites à l'instant
mais
que
bien évidemment,
les 100% de cette somme sont pour moderniser le parc de logements sociaux.
Ils sont réinvestis à
la fois. Ils ne sont pas compte, comme le dit Madame Dati, pour combler le déficit de la mairie de Paris.
Absolument pas. Et d'ailleurs, vous savez, nous marchons sur nos
mais
deux jambes.
Mais ça, on peut le voir. On peut le voir avec des documents établis.
Et à la fois réhabiliter le parc de logements sociaux actuel et produire de nouveaux logements sociaux. Parce que Paris est une ville qui compte un peu plus de 100 000 demandeurs de logements sociaux. Donc, on a besoin d'en produire de nouveaux, prioritairement dans les arrondissements et les quartiers qui en comptent.
250 000 demandes, hein, c'est ça Pierre, les chiffres manifestement,
oui,
c'est ce que
ça,
dit
ça,
le président du groupe UDI Modem au Conseil de Paris.
Il dit qu'il y a très peu de demandeurs de HLM qui obtiennent des HLM, 10 000 en ont obtenu sur 250 000 demandes. Qu'est-ce que vous lui répondez?
Je lui réponds deux choses. La première, c'est qu'on dit 250 000, il y en a une majorité parmi ces demandeurs qui ne vivent pas à Paris, mais qui vivent en première couronne et qui demandent à vivre à Paris. Quand je vous disais 100 000, ce sont 100 000 Parisiens qui ont une demande de logement social. Et puis pour le reste, mais bien évidemment qu'on a des temps d'attente qui sont élevés. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas suffisamment de logement social. Donc il faut continuer à développer le logement social. Et puis deuxièmement, il faut aussi faire en sorte que les prix dans le secteur privé ne montent pas. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes battus avec Anne Hidalgo pour mettre en place l'encadrement des loyers. C'est-à-dire pour qu'on ne puisse pas dépasser un certain niveau de prix. Et j'ajoute quand même que Mme Dati comme Mme Buzyn propose de supprimer l'encadrement des loyers, c'est-à-dire de faire augmenter les loyers dans le secteur privé. Si on fait ça, on court tout droit à la catastrophe. Et donc moi, j'assume, je pense qu'on a là deux visions différentes de Paris. Avec Anne Hidalgo, nous considérons que Paris doit rester une ville de mixité sociale et qu'on ne doit pas tout livrer au privé.
Qu'est-ce que vous répondez à Rachida Dati ce matin sur Europe 1 quand elle dit « à l'ouest, on punit, à l'est, on méprise ».
Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Ça veut dire que le logement social, c'est une punition
compte.
Ça veut dire que le logement social, c'est une punition. Ça veut dire que quand on crée du logement social dans le 16e, et j'en suis très fier, on a multiplié par 4 le pourcentage de logements sociaux depuis 2001. On n'a puni personne. On a permis à des femmes de ménage, à des assistantes maternelles, à des caissières, à des policiers d'avoir un logement digne et de vivre à Paris. Eh bien moi, je pense que ça, c'est une politique dont on doit être fier et ça n'est pas une punition.
Mais alors c'est quoi l'histoire des logements intermédiaires, des HLM qui seraient déguisés, qui seraient rebaptisés, qui seraient habités par des gens au salaire élevé?
La ville de Paris avait des logements qui n'étaient pas véritablement considérés comme des logements sociaux, mais qui étaient des logements avec des prix en dessous du prix de marché. Et nous avons fait un choix, celui de les transformer en logements sociaux. Pourquoi ? Parce que ça nous permet d'avoir la transparence sur les revenus des personnes qui vivent dedans. Et ça nous a aussi permis de faire le ménage et de nous apercevoir que dans ces logements qui avaient été attribués du temps de Chirac et de Tibéri, il y avait des gens qui gagnaient 10 000 euros par mois. Est-ce que c'est normal que des gens qui gagnent 10 000 euros par mois bénéficient d'un loyer de 10 euros du mètre carré? Est-ce que c'est normal? Eh bien moi, je vous le dis, ce qui gêne Madame Dati, c'est que nous avons cessé de protéger des gens qui évidemment votaient plutôt pour elle et qui, en l'occurrence, bénéficiaient de rentes de situation qui n'étaient pas acceptables. Moi, je le dis, le logement social, il doit prioritairement bénéficier à des gens qui ont des petits revenus et pas à des gens qui gagnent 10 000 euros par mois, comme ceux que M. Chirac et M. Tibéri avaient attribués à l'époque.
Et c'est pour ça que vous refusez de donner la main aux maires d'arrondissement pour fixer le nombre de logements sociaux?
Mais si j'avais laissé Mme Dati décider toute seule de la production de logements sociaux dans son arrondissement, on n'en aurait jamais fait. En revanche, ce que nous avons fait, c'est une transparence totale sur les attributions de logements sociaux. Et d'ailleurs, si certains auditeurs le souhaitent, ils peuvent assister à la commission de désignation de la ville de Paris qui permet d'attribuer les logements sociaux. Ce que je ne comprends pas, en revanche, c'est que dans un certain nombre d'arrondissements de l'opposition, notamment chez Mme Dati, il n'y a pas de transparence sur l'attribution des logements.
Merci beaucoup Yann Brossat, maire adjoint auprès d'Anne Hidalgo, d'avoir été avec nous en direct dans ce studio. L'actualité en bref, c'est aujourd'hui que démarre vraiment le procès du couple Fillon, Pénélope et François Fillon, soupçonnés d'avoir détourné jusqu'à 1 million d'euros d'argent public. Et puis Pierre Botton, à nouveau devant la justice, soupçonné d'avoir détourné l'argent de son association de lutte contre la récidive, ce qu'il conteste formellement.
Il est midi 21.
Europe 1.
Restez avec nous sur Europe 1 dans un instant, les violences en Inde et puis c'est mercredi. On part donc au cinéma. À tout de suite. Europe 1.
Il est midi 23, à la suite de votre journal avec Pierre de Villeneuve et Raphaël Duchemin.
Et on prend la direction de l'Inde, New Delhi, où depuis trois jours maintenant, Pierre, des violences intercommunautaires secouent le pays.
Ouais, et un bilan provisoire parle de 20 morts, 200 blessés. Bilan fragile, hein, puisqu'il n'est donné que par une source médicale. Pauline Jacquot, qu'est-ce qui se passe?
Eh bien, ce sont des hordes d'émeutiers armés de bâtons, de sabres, d'épées, de pistolets qui s'attaquent aux quartiers musulmans. Les quartiers du nord-est de la ville, Delhi, est une ville partagée entre hindous et musulmans. Et ce sont les premiers, les hindous majoritaires, qui s'en prennent en ce moment à tous les lieux de culte. Sur cette vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, vous entendez des cris, des hurrahs. C'est un homme qui grimpe sur une mosquée, arrache le haut-parleur du minaret et y installe le drapeau couleur safran, le drapeau nationaliste hindou. Les magasins, les échoppes, les voitures et les maisons des musulmans sont incendiés sous les yeux, disent les habitants d'une police totalement passive. 60 personnes ont été blessées par balle.
Au commencement de tout cela, Pauline, il y a une loi sur la citoyenneté.
Une loi instaurée en décembre par le premier ministre nationaliste hindou, Narendra Modi. Une loi qui facilite l'accès à la nationalité indienne pour les réfugiés, à l'exception, attention, des musulmans. Voilà donc trois mois que la contestation a commencé. Les extrêmes violences de ces derniers jours étaient prévisibles, selon plusieurs défenseurs des droits de l'homme sur place. Le gouvernement, disent-ils, n'a pas voulu dialoguer et n'a rien fait pour calmer la situation.
Merci Pauline Jacquot. Le cinéma, comme tous les mercredis. Bonjour Mathieu Charrier.
Bonjour à tous.
On commence par le film Judy, film européen consacré à Judy Garland et qui a d'ailleurs valu à Renée Zellweger l'Oscar de la meilleure actrice.
Il faut dire qu'elle est saisissante en Judy. C'est d'ailleurs elle qui chante dans le film. Écoutez. Somewhere over the rainbow. Alors le long métrage se concentre sur la fin des années 60, lorsque Judy est ruinée, qui tourne aux antidépresseurs, à l'alcool, qui est insomniaque, lorsque Judy doit abandonner ses enfants pour aller donner 30 concerts à guichets fermés à Londres, sauf qu'elle n'a plus vraiment la force de les assurer, elle qui est depuis l'âge de 16 ans sous contrat avec la MGM, depuis qu'ils l'ont fait tourner dans Le Magicien d'Oz. En fait, c'est l'histoire d'une femme broyée dont la vie a été volée par la notoriété. Et le fait de se concentrer sur quelques épisodes de sa vie, ça permet d'éviter de tomber dans l'écueil du biopic classique, parfois, il faut bien le dire, un peu barbant. Donc vraiment, allez voir ce Judy, c'est un film qui permet de comprendre une partie de notre patrimoine artistique mondial. C'est un film familial, vous en ressortirez en chantonnant.
Bon, et du côté des films français, dites-moi, vous vouliez nous parler, je crois, de la comédie « Mine de rien »
qui se déroule dans un ancien bassin minier. Les habitants tiennent à ce que leur mine reste debout alors que la mairie veut la démanteler. Ils sont notamment incarnés par Philippe Rebaud ou Arnaud Ducré. Et ils vont alors avoir l'idée de créer dans cette mine un parc d'attractions, alors artisanal, hein, avec des caddies transformés en autotamponneuses, le train de la mine en train fantôme, etc. C'est la trame de fond de ce film qui raconte aussi la vie, la hargne, la solidarité de ces populations malgré la pauvreté. Mine de rien est une sorte de fable dans la veine de Discount ou des Invisibles. Le film a d'ailleurs reçu le prix du public au dernier festival de comédie de l'Alpe d'Huez. Mais donc 3 étoiles sur 5 et 4 étoiles à Judy.
Merci Mathieu Charrier. Deux informations pour clôturer ce journal. D'abord la Grèce qui annonce un premier cas de contamination au coronavirus. Et puis on vous parlait au début de ce journal de ce premier Français mort de ce virus. On sait que c'est un homme de 60 ans, qu'il était enseignant d'un collège de Crépy-en-Valois dans l'Oise et qu'il était conseiller municipal à Vaumoise.
On y revient évidemment dans le journal de 13h. À tout à l'heure, Pierre.
Il est midi 26.
Europe 1.
Restez avec nous. Deux projets vont venir chercher les conseils de nos experts pour se développer. C'est la France Bouge Académie.